Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Geek avec, comme chaque semaine, Marjorie. Salut Marjorie.
Salut à tous.
Et puis cette semaine, pour parler de Star Wars, un invité exceptionnel, un fan inconditionnel. Je peux même vous dire qu'on était voir le dernier Star Wars Rogue One avec lui, il est habillé en Jedi, tout le monde nous a regardé, il s'est dit mais quel est cet homme un petit peu fou, ce fan absolu. Et on était très très fiers, nous, de marcher à ses côtés, à côté de quelqu'un qui ressemblait... Aussi fort à Obi-Wan Kenobi ou même au Ben Kenobi qu'on voit dans les premiers Star Wars, il s'agit de Pascal. Salut Pascal.
Salut Fabien, salut Marjorie, bonjour à tous.
Alors Rogue One, Marjorie, c'est sorti
le 14 décembre 2016.
Le 14 décembre dernier, on va vous le dire tout de suite, je vous l'ai un petit peu dit dans l'annonce. On a été le voir dès le mercredi soir au cinéma, justement avec Pascal habillé en Jedi. Alors, tout d'abord, première impression, on avait été voir ensemble également, on peut le rappeler, le Star Wars qui est sorti l'an dernier, qui était l'épisode 7, Star Wars,
le réveil de la force,
voilà. On avait été plutôt satisfait du film, avec quelques petits bémols éventuellement ici ou là. Votre premier avis à tous les deux sur le spin-off, donc la série dérivée, enfin en tout cas le film dérivé de l'histoire originale qui est sorti cette année, Rogue One. Pascal ou Marjorie, comment est-ce qui veut ?
En un mot ?
En un mot, vas-y. Ah, c'est pas un mot ça, c'est une onomatopée. Et toi Marjorie ?
Ah là 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 là.
Je sens qu'elle va être très compliquée cette émission si vous ne faites que des onomatopées.
C'était magnifique, c'était génial, c'était incroyable, c'était fantastique, c'était tout ça à la fois et plus encore.
C'était un Star Wars.
Alors justement, si on revient un petit peu sur le réveil de la force qu'on était voir l'an dernier assez rapidement, quels avaient été les légers points, les légers bémols en tout cas qu'on avait pu émettre les uns les autres sur ce film ?
Alors si ma mémoire est bonne, c'était un peu convenu comme scénario. Il y avait quelques incohérences qui nous paraissaient un peu... voilà, ce Stormtrooper qui sort de nulle part et qui se rebelle. Et puis, cette utilisation de la force, pas très...
Pas très conventionnelle.
Pas très conventionnelle et très, très, très facile, même pour les non-initiés. Alors, du coup, j'ai essayé de faire pareil, j'ai pas réussi, j'ai été déçu au plus haut point.
Alors, toi Pascal, en Jedi normand, qu'est-ce que tu entends par cette utilisation de la force justement un petit peu facile et quels sont les bémols que tu as pu mettre aussi sur le réveil de la force ?
En allant voir le film, j'étais très, très impatient parce que c'était un nouveau Star Wars et qu'on attendait depuis quelques années. Déçu par un peu le scénario, comme disait Marjorie, un peu par des faiblesses dans le film. Après, très content de revoir... Han Solo, incarné par
Harrison Ford, bien sûr.
Merci.
C'est vrai qu'il y a ce plaisir-là qui a été de retrouver effectivement les acteurs de la première trilogie, voilà. Les épisodes 4, 5 et 6. Après, voilà, on en a parlé pas mal ensemble, il y avait ce problème qu'il y avait beaucoup de fanservice, il y avait une vraie volonté de faire plaisir aux fans, et notamment aux fans de la première heure. Ça marchait plutôt bien, mais parfois un peu trop. Et effectivement, il y avait beaucoup de ressemblances avec l'épisode 4, qui est le premier Star Wars sorti en 77, si je ne dis pas de bêtises, Marjorie.
Oui.
Et effectivement, la symétrie entre les deux films était parfois un petit peu trop forte. Après, l'image était très belle, notamment parce qu'on peut, voilà, on peut comparer à la deuxième trilogie, celle réalisée tout en numérique et en effets spéciaux par George Lucas. Il y avait un vrai plaisir à retrouver à la fois des décors naturels, mais aussi effectivement des images numériques et que l'imbrication des uns dans les autres marchait extrêmement bien. Effectivement, on sentait pas forcément une filiation avec la trilogie des 1, 2, 3, la deuxième sortie, mais une vraie filiation très cohérente avec la première, celle de 77.
Mais visuellement, le réveil de la force était très beau. Moi, j'ai trouvé que vraiment... Avec ses côtés numériques qui étaient très bien faits et les décors naturels, c'était un peu un mix visuel entre la première trilogie et la deuxième. Donc du coup, ça fait plutôt bien le café. Mais c'est vrai que voilà, on peut pas nier que niveau scénario, on aurait été regarder la guerre des étoiles, donc l'épisode 4. On aurait eu à peu près la même chose.
Alors l'épisode 4 qui s'appelle d'ailleurs Un nouvel espoir et ça fait une transition tout trouvée avec Rogue One puisque on pourra le voir pendant le film, cette question de l'espoir elle est omniprésente dans ce spin-off qui vient de sortir au mois de décembre. Alors, on reste aussi sur la qualité de l'image, effectivement. Cette qualité d'image, Pascal, qu'on avait vue dans le Réveil de la Force, donc dans l'épisode 7. Alors, voilà, c'est un peu dur de se retrouver. On est sur les... Il y a beaucoup de films de sortie, donc on parle des spin-offs, des épisodes, etc. Mais en tout cas, voilà, l'épisode 7, donc le dernier principal sorti, la qualité de l'image, on la retrouve vraiment dans ce spin-off Rogue One.
Oui, complètement. Et encore plus travaillé avec plus de décors naturels et qui apporte une certaine qualité d'image au film, quoi. Et on rentre très vite dedans.
Alors moi j'ai trouvé avec le recul une certaine patte Disney en fait sur alors là pour le coup c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment amélioratif pour le coup. Disney est propriétaire de la plupart des films Marvel qui sortent, alors pas les films sur les X-Men mais effectivement la plupart des autres, et il y a une vraie qualité d'image, un vrai grain au niveau de la photographie, c'est-à-dire que l'agencement entre les décors naturels et les effets spéciaux sont plutôt remarquables, et il y a une vraie patte à ce niveau-là. Et avec le recul, j'ai trouvé qu'à la fois dans Le Réveil de la Force et dans Rogue One, on retrouve cette patte-là. Et je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas complètement au fait des rachats de licences par les différents studios, que Star Wars, voilà, est aussi propriété de Disney aujourd'hui. On sent une vraie filiation, finalement, entre ces différents films-là.
C'est vrai, mais on ne peut pas reprocher à Disney de ne pas savoir faire des films. Ils savent faire des films, des beaux films.
Ouais. Et là, il ne s'agit plus de dessins animés, c'est-à-dire que quand on parle vraiment de films, on est vraiment sur des films de très belle qualité, avec une vraie patte très particulière. Voilà, quand on voit un film Disney, que ce soit un Marvel ou un Star Wars, ça ne ressemble pas à un film de Tim Burton, ça ne ressemble pas à un film de Tarantino, ça ne ressemble pas à Harry Potter, ça ne ressemble pas à un film de la Fox. Il y a une vraie patte d'image. Marjorie, toi qui es spécialiste cinéma, tu as quelques éléments à rajouter là-dessus éventuellement ou...
Pas particulièrement là-dessus, mais... Quand on dit que Disney est capable de faire des films, là, je dirais même qu'ils sont capables de faire du George Lucas. Alors, c'est dire si ils sont quand même très doués, les messieurs.
Alors, avant de parler un peu plus avant du scénario, ce que je vous propose, c'est d'écouter la bande-annonce de Rogue One. Si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien là, prenez-en plein vos oreilles.
Le monde court à sa perte. Le drapeau de l'Empire flotte dans toute la galaxie. On peut vous enlever les menottes ?
Finissons-en, s'il vous plaît. On a une mission à te confier. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire.
Si c'est vraiment ça que tu fais, je veux participer.
D'accord.
D'accord.
Il y a longtemps que je recrute pour la rébellion.
Ils ont tout détruit.
Je me bats contre l'Empire maintenant.
Je ne crains rien. Tout est tel que le veut la Force.
Le capitaine dit que tu es une amie. Je ne vais pas te tuer.
Merci. On n'a pas beaucoup de temps. Chaque jour, il se renforce.
Il y a 97,6% de probabilité pour que ça échoue.
Il a de bonnes intentions.
C'est l'occasion pour nous d'inverser le cours des choses. Vous êtes avec moi ?
Jusqu'au bout.
Voilà, Rogue One, Star Wars Rogue One, le spin-off qui est sorti le 14 décembre, dont on a pu écouter à l'instant la bande-annonce, qui effectivement, même sans les images, hein, donne des frissons avec toutes ces
boîtes. Cette respiration à la fin, cette petite respiration.
Ah ça, la respiration de Dark Vador, c'est quelque chose. Hein. Il suffit de l'entendre pour avoir plein de sensations qui déboulent d'un seul coup. Sous la peau et derrière
ça fait toujours faire le silence dans une salle de cinéma où pourtant il y a du pop-corn et des enfants. Oui. Bizarrement, c'est toujours le silence.
Et d'ailleurs, Fabien, nous, on va aller le revoir.
Alors justement, avant de le revoir, il faudrait peut-être qu'on donne quelques clés pour les auditeurs qui ne seraient pas des fans absolus de Star Wars sur la continuité ou sur l'ordre des épisodes. On en parle un petit peu à chaque fois, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir s'y retrouver entre la première trilogie, la deuxième trilogie, les spin-offs, l'épisode 7, etc. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Alors, Ce que je vous propose, c'est deux choses. Marjorie, toi qui es la spécialiste cinéma, qui est une fan inconditionnelle des années de sortie des films, est-ce que tu peux nous refaire, en gros, l'ordre chronologique de sortie au cinéma ? Alors, sans citer forcément les années, on sait que le premier, c'est 77, mais sans citer forcément les années, l'ordre de sortie au cinéma. Et puis, Calou, après, je vais te demander l'ordre de la narration, l'ordre de l'histoire, du premier au dernier. Marjorie, vas-y.
Alors, l'ordre de sortie, bah, c'est pas compliqué. On a commencé par l'épisode 4, donc la guerre des étoiles. Et à l'époque, ce n'était pas l'épisode 4, c'était juste la guerre des étoiles.
Qui ensuite, est renommé derrière le...
Un nouvel espoir, quand le film a été remasterisé. Ensuite, on a l'Empire contre-attaque, quelques années plus tard. Et pas loin de 2 ou 3 années plus tard, on a le retour du Jedi. Voilà. Pour ce qui est des sorties de la première trilogie.
Donc l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6.
Exactement. Ensuite, en 99, on avait La Menace Fantôme, qui est l'épisode 1, donc qui se passe bien avant la première trilogie sortie au cinéma. En 2002, on a eu L'Attaque des Clones. Et en 2005, La Revanche des Sith.
Ensuite vient le film sorti l'an dernier.
Oui, qui se trouve être Le Réveil de la Force. Et là, cette année, Rogue One, le premier d'une série de 3 films dérivés.
Le Réveil de la Force, donc c'est l'épisode 7. Il intervient après l'épisode 6, qui est sorti dans les années 80.
80, oui.
Voilà, 80. Et puis, effectivement, Rogue One, lui qui vient de sortir, qui n'est pas dans cette ligne, en tout cas des épisodes, parce que c'est-à-dire, on l'a dit, un spin-off, donc un épisode dérivé. On refait la même chose, Calou, maintenant, avec l'ordre de la narration. Est-ce que tu peux, sans trop spoiler évidemment, mais raconter quelques bribes quand même de chacun des films pour qu'on arrive à suivre la trame narrative en fonction de l'ordre, quelques bribes hein, tout simplement. Oui. On commence du coup forcément avec l'épisode 1, La Menace Fantôme, l'ordre de la narration j'entends.
L'épisode 1, c'est l'Empire qui commence à prendre le pouvoir. Il y a le travail de l'Empereur qui s'installe. Et la découverte d'Anakin Skywalker, qui deviendra plus tard...
Ça s'appelle même pas encore l'Empire, puisque on voit les prémices, on a l'ancienne République, et on voit effectivement les prémices de manipulation politique de ce qu'on se doute qui deviendra peut-être plus tard l'Empire. Et d'ailleurs, on va le voir, mais c'est même peut-être pas les rebelles, la confédération marchande
oui.
Voilà. Finalement, on imagine que c'est ça qui va devenir l'Empire, alors que pas du tout.
Voilà,
c'est une vaste arnaque qui est montée de toutes pièce par le sénateur Palpatine. Alors, La Menace Fantôme, donc effectivement, on voit l'enfance d'Anakin Skywalker. Épisode 2, la guerre des clones.
L'attaque des clones,
la guerre des clones, c'est les produits dérivés sortis entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Vous allez vous y retrouver, vous inquiétez pas. L'épisode 2, on voit donc Anakin Skywalker qui est maintenant un Jedi et qui a grandi.
Qui est encore un Padawan avec Obi-Wan Kenobi. Voilà, de plus en plus, la Ligue des marchands prend de l'ampleur, s'équipe de drones.
Fédération du commerce,
voilà, c'est ça. Et on voit toujours le futur empereur, le sénateur Palpatine, manigancé derrière la chute de la République.
Un des éléments fondamentaux de ce film, c'est l'histoire d'amour entre Anakin Skywalker et la reine, sénatrice à ce moment-là, Padmé Amidala.
Voilà.
Épisode 3, alors là on est vraiment sur un épisode qui est charnière et qui est très très important. Anakin Skywalker, qu'on continue à suivre presque comme personnage principal, a bien grandi et là il est chevalier Jedi. On lui propose même de devenir maître Jedi, mais c'est pas qu'on lui propose, c'est que
il
aimerait bien. Et là effectivement c'est l'avènement de l'Empire, c'est ça.
Voilà, c'est la révélation de l'Empereur qui s'empare du pouvoir, la lutte des Jedi à maintenir l'ancienne République, parce qu'on peut et une partie de la disparition aussi des Jedi petit à petit.
Et c'est surtout la naissance de Dark Vador, puisque effectivement il va y avoir des éléments, on va pas tout vous dire, mais il y a dans cet épisode 3 que Anakin Skywalker devient Dark Vador. On spoil pas grand chose en le disant, c'est-à-dire que les gens savent très bien que l'épisode 3 c'est ce qu'il y a de fondamental. Vient ensuite l'épisode suivant qui est le spin-off en fait qui vient de sortir.
Voilà, Rogue One.
Rogue One qui qui raconte finalement tout ce qui va, enfin une partie de ce qui se passe juste avant l'épisode 4, puisqu'il va s'agir de récupérer les plans de l'Étoile de la Mort.
Voilà, exactement. On voit comment la rébellion qui s'est organisée,
Voilà, la rébellion, effectivement, on voit les différentes personnes qui naissent, des figures emblématiques. On retrouve aussi pas mal de références à la revanche des Sith, notamment voilà, le sénateur dont j'ai plus le nom, qui est...
Organa.
Le sénateur Bail Organa. Voilà, qui est le père adoptif de Leia Organa, donc qu'on retrouvera dans la suite, qui est présent dans cette rébellion. Voilà, et effectivement, ce mot espoir dont je parlais tout à l'heure, il revient assez régulièrement dans Rogue One, avec cette espèce de cambriolage qui est nécessaire pour récupérer les plans de l'Étoile Noire. Vient ensuite, du coup, l'épisode 4.
La guerre des étoiles,
alors qu'on appelle du coup maintenant un nouvel espoir.
Où tout commence quand l'Empire met la main sur le vaisseau de la sénatrice Leila Organa, du coup, qui se trouve avoir récupéré les plans de l'Étoile de la Mort.
Et là, tout l'enjeu de l'épisode, c'est justement essayer de sauver la sénatrice, récupérer les plans, détruire éventuellement l'Étoile Noire, si c'est possible. Et puis, on va retrouver dans l'épisode 4 Obi-Wan Kenobi, qu'on appelle Ben Kenobi, et peut-être qu'on verra les prémices d'une résurgence des Jedi. Ça, c'est l'épisode 4. Ensuite, l'épisode 5, on est dans ce combat, toujours entre la rébellion et l'Empire. Là, finalement, on voit une montée en puissance d'un côté des Jedi et d'autre côté de l'Empire et des affrontements. Il n'y a pas d'événement notable de l'histoire à signaler, si ?
C'est surtout l'avènement de Luke Skywalker et son entraînement avec un bien dénommé Yoda. Petite créature verte toute mignonnette.
Vient ensuite le retour du Jedi avec effectivement Luke Skywalker qui va parvenir à mettre un vrai coup d'arrêt, en tout cas à l'Empire. Et on sent cette renaissance des Jedi et on imagine que voilà, le point de départ est lancé, qu'on va pouvoir revenir à une académie Jedi, à un ordre Jedi rétabli, etc. Et puis on tombe ensuite sur l'épisode 7 qui est sorti donc l'an dernier, où là on se rend compte que l'Empire n'est pas si mort que ça, que les Jedi n'ont pas réussi finalement encore à renaître complètement.
Exactement, on voit un Luke qui a pratiquement disparu, on voit une rébellion affaiblie, on se pose beaucoup de questions. Et...
une république qui est là mais qui est un petit peu en souffrance, et puis il y a ce nouvel ordre qui est une espèce d'empire encore en vie, qui est là. Et donc cet épisode 7, il donne naissance du coup à une autre, au moins trilogie qu'on va voir dans les années à venir, parce qu'on s'attend à un Star Wars par an à peu près. Donc voilà pour l'histoire. Alors vous avez le choix quand vous voulez regarder Star Wars ou faire découvrir Star Wars à votre famille, à vos enfants, qui vous voulez. Soit vous démarrez par l'ordre chronologique, on va dire, des sorties de films, et comme ça vous suivez l'évolution de la technique. Soit vous le faites dans l'ordre de la narration, qui est l'ordre qu'on vient effectivement de vous donner. Vous avez des préférences l'un l'autre par rapport à l'ordre dans lequel vous voudriez montrer, Pascal, je sais que tu as des enfants qui sont en très bas âge, mais ils seront bientôt en âge de pouvoir commencer Star Wars. Tu les emmènerais vers quoi, toi? Quel ordre?
Vers l'épisode 4, 5, 6, directement.
L'ordre au cinéma.
Ah oui, l'ordre au cinéma, c'est ce qui m'a fait rentrer dans l'univers Star Wars et... par rapport à la qualité, par rapport au travail, par rapport au scénario, c'est celui où t'adhères ou t'adhères pas.
Marjorie ?
Moi, l'ordre chronologique du cinéma, c'est le seul qui est de l'importance à mes yeux. Après, Après, je trouve qu'il y a une véritable intelligence de commencer par le début de l'histoire. Comme toujours, on ne regarde pas le troisième épisode d'une série avant d'avoir vu les deux premiers. Par contre, niveau technique, justement, dans le film, niveau effet visuel, après le 3, on se prend quand même une petite claque en revenant tout de suite vers le 4. Donc, plutôt commencer vers le 4-5 pour pas trop être déboussolé par le 1-2-3 et ensuite pouvoir attaquer sereinement Rogue One et le Réveil de la Force.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a même des ordres de visionnage alternatifs où il s'agirait de visionner le 4 et le 5. Dans le 5, effectivement, il y a des révélations qui sont importantes sur qui est Dark Vador, et on sait bien que Dark Vador et Anakin Skywalker sont la même personne. Et à partir de ce moment-là, à partir donc du 5, de visionner les 1, 2, 3, donc faire une espèce de retour en arrière, de flashback sur l'histoire de Dark Vador et comment Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, et après d'aller sur effectivement le retour du Jedi, et puis on imagine derrière pouvoir éventuellement aller sur... sur le réveil de la force. Alors, on pourrait presque même commencer par le spin-off Rogue One, 4, 5, les 1, 2, 3, et puis après le 6 et le 7. Ça peut être une façon de les visionner. Après, effectivement, dans la façon dont c'est écrit, l'épisode 4, il est presque un film pour enfants, et donc il peut se regarder assez tôt, alors que les autres films sont certainement plus beaucoup sombre. plus sombres. Alors j'avais de la musique à vous faire écouter éventuellement, mais il est un petit peu tard et puis on a déjà écouté une bande-annonce. On écoutera de la musique, on en a plein à vous faire écouter sur Star Wars la semaine prochaine ou la semaine suivante. Vous verrez que c'est toujours un régal pour les oreilles. Si on reste un petit peu sur Rogue One justement, Pascal et Marjorie, qu'est-ce que vous pensez du scénario justement et du lien entre Rogue One et l'épisode 4?
Le scénario est très bien fait, très bien ficelé, très bien amené. Et la liaison entre, sans révéler le film, est très bien amenée aussi. C'est cohérent. Voilà, l'ensemble du scénario est cohérent avec les histoires précédentes et avec la suite.
Le fan service est très bien assuré. On a des petites touches comme ça qui nous rappellent l'entièreté de la saga, en fait. Et il y a vraiment une tendresse à retrouver. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça fait toujours chaud au cœur d'aller voir un Star Wars au cinéma. Surtout que je n'ai pas vu le 4, 5, 6, parce que je n'étais pas née encore. Mais le fanservice est très bien amené, tout en finesse, en délicatesse. En fait, je trouve ce film très fin. Et voilà, c'est ce que j'avais dit en sortant de la salle de cinéma. C'est un Star Wars, ça fait du bien au moral.
Exactement.
Ça fait du bien.
Il y a une vraie subtilité effectivement dans la façon dont le film et dont le scénario est travaillé. Le petit regret que certains ont pu émettre, notamment j'ai eu quelques avis sur internet, c'est qu'il y a peu ou pas la présence de Jedi effectivement dans Rogue One, et ça doit être quasiment le seul Star Wars où le seul Jedi qu'on peut voir n'est pas un Jedi, c'est un Sith. Un avis là-dessus sur le fait de pas trop voir la Force?
Bah, en même temps, dans Un Nouvel Espoir, il n'y a plus de Jedi. Voilà. Et à la fin de la Revanche des Sith, les Jedi sont tous morts. Donc moi, je ne trouve pas ça étonnant. Enfin, ça ne m'a pas choqué moi personnellement. Mais
voilà. Et les deux Jedi qui restent, c'est-à-dire Obi-Wan Kenobi et Yoda, vivent cachés, ont complètement disparu de l'univers. Non, donc,
on entreaperçoit vivement, on en parle juste d'un vieux Jedi qui habiterait très loin dans la galaxie. On ne dit même pas où, mais en fait, on ne peut pas voir de Jedi dans ce film, puisque c'est anachronique. Ce serait anachronique.
Il y a justement un travail que je trouve extrêmement intéressant sur cette notion de la Force et des Jedi. Dans les épisodes 1, 2, 3, les Jedi sont une entité qui est connue. Alors, ce n'est pas une religion, mais presque. Et effectivement, leurs pouvoirs, etc., sont connus. Comme les Jedi disparaissent, cette espèce de religion et de magie devient presque du mysticisme. Et on le voit dans Rogue One, il y a un personnage qui est assez intéressant qui on le sent proche de la Force, mais presque avec une superstition au niveau de la Force, et c'est amené tout à fait subtilement. Évidemment, on voit dans les 4, 5, 6 la présence de la Force, mais juste incarnée par Luke Skywalker, par sa sœur et par Yoda et Obi-Wan Kenobi, et puis bien sûr par l'Empereur et Dark Vador. Mais c'est vraiment centré sur ces personnages-là. C'est-à-dire qu'on sait bien que le kid à moyen comme Han Solo, qui n'a pas d'accès à la Force lui parce qu'il n'est pas Jedi, bah, pour lui ça reste quelque chose d'assez magique et il est relativement sceptique. Même Luke Skywalker, quand il rencontre Ben Kenobi, il a quelques difficultés à appréhender justement la Force. Pour lui, c'est plutôt de l'ordre de la légende. Et effectivement, dans le réveil de la Force, on a une scène, je ne sais pas si vous en rappelez, qui est assez mythique, entre Han Solo et Rey et Finn d'ailleurs, où ils sont dans le Faucon Millenium, ils se rencontrent pour la première fois, et puis il y a BB-8, le petit droïde qui arrive et qui explique que la carte là doit permettre de retrouver Luke Skywalker, et Han Solo leur révèle, il leur dit mais vous savez, la Force, tout ça j'y croyais pas, mais tout est vrai, et on sent qu'il y a cette espèce de mysticisme qui s'est installé, et on comprend bien ça, c'est-à-dire que comme les Jedi ont disparu, comme la Force semble avoir disparu, effectivement, c'est presque devenu de l'ordre de la superstition. Donc pour moi, c'est comme vous l'avez dit, hein, tout à fait justifié que dans Rogue One, on n'est pas ça, mais c'est bien amené, et c'est intéressant.
En fait, dans tout le film du Réveil de la Force, si je me souviens bien, Han Solo, même s'il ne peut pas toucher la Force, s'il ne peut pas la ressentir, il en est enveloppé quand même. Parce que je me souviens d'une scène où il tire au blaster à l'aveugle. Hein.
Oui.
Ça tue deux Stormtroopers en un seul coup. Oui. Voilà, c'est comme ça. C'est « Oh, bon, que la force soit avec moi, de toute façon, j'y vais, yolo, tout va bien.
» Et puis, il y a un personnage qui est intéressant aussi dans Le Réveil de la Force, cette espèce de Yoda féminin et orange qui explique bien ne pas être un Jedi, mais qui peut vivre 1000 ans et qui a déjà vécu 1000 ans et qui est très proche de la Force, parce que c'est même elle qui a certains artefacts dont on ne révélera pas encore tenant et aboutissant, mais voilà, qui est proche de la Force. Donc voilà, ce traitement de la Force, a priori, vous a plu aussi, et j'en suis ravi. Dernier élément, là, on le retrouve dans chaque Star Wars, ce sont les droïdes. Alors, bien sûr, il y a R2-D2 et C-3PO, mais il y a cette volonté sur les derniers, qu'il n'y avait pas dans les 4, 5, 6 et dans les 1, 2, 3, d'avoir de nouveaux personnages droïdes avec des personnalités propres et intéressantes. Pour moi, il y a BB-8 dans Le Réveil de la Force, qui est un R2-D2 plus jeune et plus mignon, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, tout à fait. Il est...
Plus mignon, oui.
Oui, plus mignon. Oui, c'est sûr. Voilà,
c'est... Mais c'est parce qu'il a une petite boule, alors du coup, il roule.
Mais même sur sa taille, il est plus petit, il y a un côté très cute, très, très jeune. On a l'impression de voir un Luke Skywalker jeune en version droïde, quoi, quelque part. Il y a un peu ce côté-là. Et puis alors là, dans Rogue One, il y a un autre personnage, un autre droïde. Alors, je n'ai pas retenu le nom du...
C'est K-0 quelque chose.
Oui. Voilà, qui lui est un droïde impérial à l'origine, qui a été reconverti par les rebelles. Et alors lui, c'est un genre de C-3PO aussi. Mais alors pour le coup, il n'est pas plus mignon, il est juste plus violent, plus cynique.
Moins enquiquinant.
Moins enquiquinant aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce personnage du droïde. Oui. Je le trouve que c'est un contrepoint tout à fait... c'est la personnalité des droïdes, hein. C'était leur rôle dès les premiers épisodes. Vas-y, le nom de
Marjorie. K2SO.
K2SO, voilà. C'est les droïdes ont toujours été un espèce de faire-valoir des autres personnages, en même temps qui apportaient une touche de légèreté et une touche d'humour. Et on est sur un humour qui est en général plutôt sur le mignon et sur le léger, voire sur le burlesque un petit peu. Là, ce
K2SO, il n'est pas mignon.
K2SO, il n'est pas ça. Mignon.
Il est marrant. Il est attachant. Enfin, sur la fin, il devient attachant. Avant, il fait office d'élément comique presque, parce que c'est lui qui nous fait rire pour de vrai, pas les autres personnages qui sont plutôt assez sérieux. Mais lui, c'est la touche d'humour, ça fait du bien.
Mais c'est un humour très noir, très cynique.
Oui, c'est oh, je ne te tuerai pas, mais c'est pas l'envie qui m'en manque, humaine, là, tu m'agaces.
Et ça correspond bien à l'ambiance globale
du film.
De ce spin-off. Voilà, moi je trouve très très attachant. Et j'ai vu quelques fan art également sur internet. Et les fans ont été très attachés directement à ce droïde qui a une bouille assez sympa, mais qui a un humour proche d'un humour à la Kaamelott, tiens, du roi Arthur, qui est toujours un peu désabusé par la vie.
C'est ça, oui, c'est le bon mot. Il est désabusé, K2SO. Désabusé par tout ça.
Il n'est pas dans son camp d'origine et il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Allez, on en restera là-dessus sur Rogue One. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore un peu de Star Wars. On a plein de livres à vous proposer. On a plein de jeux vidéo aussi. Si vous voulez continuer à passer ces fêtes de Noël dans l'univers Star Wars, ou si vous avez des fans de Star Wars dans votre entourage et que vous voulez leur offrir un cadeau. À la semaine prochaine, Pascal et Marjorie.
Salut.
Salut.
Salut.